BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle édition de Tout pour investir. Très heureux de vous retrouver. On est évidemment en direct à la radio, sur la télé, sur le web et vous pouvez retrouver l'essentiel de nos chroniques en podcast et en replay au milieu d'un marché quand même plein de surprises en ce moment avec des trois d'Hormuz, détente ou pas. On va voir ce qui se passe, comme dirait un certain Donald Trump. Pour l'instant, les marchés sont plutôt sur une tendance négative, à moins 0,7% pour le CAC 40 à Paris, mais on perd pas le cap des 8000 points, à 8054. Le pétrole, 109,58 $ pour le Brent de mer du Nord, 103 $ pour le baril de brut léger américain. Il n'y a pas de vrai signe de détente. Les résultats de la high-tech américaine, on en a beaucoup parlé, Nicolas Panier vous en parlait ce matin. Le bilan est quand même très très bon, excellent. Mais tout ça ne nous en dit pas plus sur la question essentielle. Où est-ce qu'on va? On va essayer de défricher un petit peu le terrain avec nos déchiffreurs du jour. Vincent Grard de Trade Republic et Gustave Sanden de Colbert. On parlera aussi avec eux, tiens, de ce coup de tonnerre du jour. Quand même, cette OPA à 55 milliards de dollars de GameStop, dont on a parlé pendant des semaines, comme une société qui ne savait pas où elle allait. Ben là, elle sait et elle veut se lancer à l'assaut d'eBay. Rien que ça. 55 milliards de dollars. Est-ce bien sérieux tout ça? On va se poser la question avec nos invités. Les arbitrages techniques de court terme, ce sera avec Jean-Louis Cussac de Perceval Finance. Un peu de finance comportementale comme tous les lundis avec Julien Nebenzal d'Itoro, notamment sur cette satanée volatilité qui ne veut pas partir sur le marché des taux d'intérêt, le marché obligataire. On a quand même une dette française qui est à 3,71, 3,72 de rendement, alors que du côté américain, ça baisse un petit peu, 4,37. Mais on sent que les tensions de long terme perdurent, mais c'est surtout, encore une fois, cette volatilité qu'il faut gérer. On verra tout ça avec lui, bien sûr. En revanche, une direction d'investissement claire et nette, sans bavure, ce sont les pays émergents, les opportunités du moment, les terres intéressantes, les terres fertiles pour l'investissement. On en parlera avec Souleymane Jean Galadima de Sapiens tout à l'heure. Et puis, restez bien à l'écoute et restez bien devant BFM Business parce qu'à 11h50, il y a les experts d'Interenchères qui vont nous parler du marché de la mémorabilia. Vous savez, ces articles sportifs, un petit peu mythiques, un petit peu iconiques, dédicacés, authentifiés, qui ont appartenu à des grands joueurs, qui ont joué des matchs, qui ont marqué l'histoire. Là, je vous en dis pas plus, mais on va découvrir ensemble sur le plateau un objet iconique, une sainte relique de l'histoire du sport. Je vous en dis pas plus, je vous parlerai juste de papillons, d'abeilles, de châtaignes. On verra ça. Vous pouvez nous joindre par mail pour nous poser toutes vos questions. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou nous envoyer un SMS au 732-16. Tapez le mot-clé business suivi de votre message. Puis sinon, vous pouvez me poser vos questions directement sur Twitter, sur X ou sur mon compte LinkedIn. Le reste de l'actualité du jour. Alors à la une ce matin, je vous en parlais, cette OPA massive aux États-Unis sont les magasins de jeux vidéo GameStop qui proposent plus de 55 milliards de dollars pour acheter la plateforme eBay, dont ils détiennent déjà 5% du capital. Ils ont grignoté ce capital sur les marchés. GameStop veut faire d'eBay un concurrent crédible à Amazon, rien que ça, et prévient qu'il ira à l'OPA hostile si la direction ne se montre pas réceptive à cette offre qui propose 46% de prime moyenne sur le titre eBay. Sur le front du pétrole, donc, je vous ai donné les cours du brut et peut-être une avancée donc, dans le détroit d'Hormuz. Donald Trump annonce que les États-Unis vont aider les navires encore bloqués à sortir du secteur, du moins ceux qui n'ont rien à voir avec le conflit, a-t-il précisé. Non. Avec un début des opérations dès ce matin, 15 000 soldats seront impliqués dans les escortes, précise le commandement militaire américain. Par ailleurs, c'était dimanche, l'OPEP+, et l'Organisation des pays producteurs a relevé comme prévu ses quotas, 188 000 barils de plus par jour au mois de juin, sans mentionner du tout dans le communiqué le départ des Émirats Arabes Unis, du cartel Abu Dhabi, qui dans le même temps a annoncé 55 milliards de dollars d'investissement dans ses projets pétroliers au cours des 2 ans qui viennent. Un coup d'œil sur votre tableau de bord des marchés tout de suite.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Bon, je vous le disais, le marché n'est pas plus décidé. En ce début de semaine, on est toujours sur une petite baisse du CAC 40. Moins 0,57%, on descend à 8060 points, mais on garde le cap des 8000. Et puis à noter une surperformance alors très très marquante de la tech. L'Euronext Tech Leader est vraiment en forme, on gagne 1%, alors que le reste des indices européens, c'est vraiment en ordre dispersé. À moins 0,67 pour l'Eurostock 50, le DAX à Francfort gagne lui du terrain à plus 0,12. et moins 1,13 pour l'IBEX à Madrid. Le catalyseur, c'est quand même qu'on fait les comptes hein, des résultats de la high-tech américaine. On verra ça avec nos invités dans quelques minutes. Mais c'est quand même du sans faute. C'est quand même des annonces de CAPEX massives. Alors, avec toujours des interrogations sur le financement, le fonctionnement du mode de financement de l'intelligence artificielle. Et puis, pour couronner le tout, quand même, Apple, qui a vraiment signé de très, très belles performances vendredi. Il y avait séance hein, vendredi du côté de Wall Street. Et les résultats d'Apple ont quand même été salués par la bourse américaine. Résultat des courses sur le marché, on a une tech qui se porte bien. ST Microelectronics, plus forte hausse de l'indice CAC 40. On est en progression de 4,4%, 48,05 €. Bon, alors, c'est Soy Tech qui, encore une fois, s'envole. Le titre a pris quand même 20% sur la semaine passée et il gagne quasiment 14% ce matin. On est à 144,65 €. À noter la métallurgie qui se porte bien aussi. ArcelorMittal plus 1,75 à 1,50. On a Aperam aussi qui gagne 5,7% à 47,96 €. Donc, vous voyez, de la high-tech, mais de la vieille économie aussi. Du côté des baisses, à noter le secteur de la santé hein, qui est vendu aujourd'hui. Eurofins scientifique, moins 2%, 57,82 €. On a Sanofi en repli d'1,8% à 78,36 €. À noter DBV Technologies qui signe la plus forte baisse sur le SBF 120, baisse marquée, hein, moins 8,3%, on est à 3,33 €. On a Valneva, moins 6,4% à 2,17 €. Technip Énergie, hein, vraiment le vent est très très négatif hein, depuis la publication des résultats. Puis surtout, on sent que c'est une valeur pétrolière, parapétrolière qui a du mal à profiter de cette vague d'intensification autour des cours du brut. On a le Brent de Mer du Nord qui est donc à 109,52 $, 103,20 $ pour le brut léger américain. Peu de réaction autour des pétroliers, notamment de Total Energy qui fait pas grand chose ce matin. Le titre est même en légère baisse, moins 0,93% à 78,55 €. Les taux d'intérêt, on le sait, les taux obligataires, c'est vraiment la clé de tout en ce moment et on reste sur un paysage tendu et notamment en Europe. Hein, après la décision des grandes banques centrales la semaine dernière, que ce soit la Fed, que ce soit la BCE, il y avait même la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, etc. On sent que voilà, le paysage est toujours très tendu, même si la position des grandes institutions monétaires est, on va dire, plutôt accommodante dans le discours. Je dis bien plutôt parce que c'est vraiment de l'ordre de la nuance. Mais voilà, 3,71 pour la dette à 10 ans française. Le 10 ans allemand, 3,05. Ça se détend en revanche un petit peu du côté de l'Amérique. Le 10 ans américain est à 4,37%. Le pétrole, bon ben on en a parlé. Et l'once d'or fin, 4,590 $ l'once. Tout de suite, les déchiffreurs nous aident à déchiffrer.
Tout pour investir. Le déchiffrage.
Ils arrivent tranquillement, ils vont s'installer. Vincent Grard de Trade Republic est avec nous et Gustave Sanden de Colbert. Merci d'être en direct en plateau avec nous ce matin. On va peut-être commencer par juste un mot, on en parlait dans le Flash Info, cette espèce d'OPA sortie de nulle part. Donc, je rappelle les faits. GameStop, il y a encore un an et demi, c'était la risée de Wall Street, c'était ce qu'on appelait un meme stock, c'était une entreprise qui était au bord de la ruine, on ne savait pas trop où elle allait. Alors, vendre des jeux vidéo, être une entreprise qui stocke du Bitcoin, ils ne savaient pas trop. Donc en gros, c'était un peu un jouet spéculatif. Un an et demi après, cette boîte, bon, s'est redressée, les comptes ont quand même été apurés, elle a été reprise en main par quelqu'un de compétent, mais cette boîte qui sort de nulle part, enfin du diable Vauvert, est en train de lancer une OPA hostile à 55 milliards de dollars sur eBay, le site d'enchères sur Internet. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? En faire l'égal d'Amazon. Vincent Gras, on a vu et on se pose la question depuis quelques semaines de savoir si les marchés sont pas un petit peu, quel est le terme, complaisants vis-à-vis de la géopolitique. Est-ce que là, les entreprises prennent pas le même pli en prenant un petit peu les vessies pour des lanternes ?
Quand on connaît un peu l'histoire de Ryan Cohen, le CEO donc de GameStop, on n'est pas très étonné. Le fait qui étonne un peu, c'est que là, on est sur un David qui essaie de manger Goliath, mmh. Ce qui est très très rare quand même sur les sociétés cotées. J'ai un peu l'impression qu'il est en train d'essayer de faire avec GameStop ce que d'autres font, mais d'habitude dans le capital risque, dans le non-coté. Et il essaie d'appliquer un peu cette méthode-là sur des boîtes cotées.
Avec en plus une optique, j'allais dire, il se comporte un peu comme un fonds activiste. C'est-à-dire, il prend 5% du capital en loose day, enfin, discrètement, sur le marché. Et ensuite, il dit, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et sinon, ça va mal aller. Donc du coup, on a un peu une compilation de ces différentes optiques de marché.
Et c'est ce qu'il a fait avec GameStop depuis 2019. Il est arrivé au capital, ensuite il s'est fait nommer président et ensuite CEO. Mmh. Donc en fait, il prend le capital et ensuite il impose les changements. Mmh. Et c'est un peu ce qu'il essaie de reproduire là avec eBay. Mmh. Cela dit, la logique est pas mauvaise en fait. Il veut utiliser les 1600 magasins GameStop aux États-Unis comme hub logistique pour améliorer la livraison côté eBay, ce qui ferait d'un point de vue économie d'échelle sens. Mmh. Ça lui permettrait d'économiser à peu près 2 milliards par an de coûts de fonctionnement, ce qui est énorme.
C'est vrai que l'essentiel de l'activité d'eBay, enfin à 95%, c'est pas eux qui s'occupent de la logistique.
Hein, exactement. Donc là, ils réintègrent la chaîne de valeur et ça permet de conserver, voire d'améliorer les marges, ce qui est plutôt une bonne idée. Maintenant, on parle quand même d'une opération de 56 milliards qui est financée majoritairement par de la dette. Donc, ça reste un pari.
Par des actions GameStop qui reste un pari aussi.
Exactement. Donc, c'est une sorte de LBO très risqué.
Gustave Sandén, ouais, peut-être juste un mot de commentaire. En plus, j'ai regardé le nom de la banque qui est mandatée pour l'opération. Je connaissais pas du tout. C'est une toute petite banque en ligne canadienne qui doit se faire une pub monstrueuse là-dessus. Mais là aussi,
TD Bank, je crois, c'est ça.
TD Bank.
Ouais, voilà. Effectivement. Bon, moi, je trouve ça assez intéressant. Parmi les gagnants du e-commerce, il y a Amazon. Mmh. On en a parlé, mais aussi Walmart. Et Walmart, c'est un bon exemple d'un schéma qui est parti justement d'un maillage physique et qui a construit par-dessus une très bonne plateforme de distribution digitale, en jouant justement aussi sur ses effets logistiques. Et clairement, c'est plutôt ça, à mon avis, le modèle vers lequel veut se rapprocher Ryan Cohen, avec justement cette présence ou ce maillage digital, peut-être plus concentré sur les petits produits. Donc, c'est assez intéressant. En tant qu'actionnaire minoritaire, s'il arrive à convaincre que dans l'intérêt social de l'entreprise dans son ensemble, c'est le meilleur partenariat possible, alors tout est envisageable. En tout cas, assez amusant, effectivement, comme sujet à suivre dans ce marché, comme on le disait en introduction. C'est un peu complaisant.
Ouais, le seul truc aussi, au-delà du côté risque, du côté track record de GameStop par rapport à eBay. Alors, c'est vrai qu'eBay n'a jamais fait des merveilles en bourse, mais l'objet, ça va peut-être aussi, pour la direction d'eBay, de dire, mais nous, on ne veut pas devenir les concurrents d'Amazon. On va se fracasser. Nous, on a toujours été un petit truc avec, et on en reparlera d'ailleurs en fin d'émission, des enchères sur les objets de collection, des choses assez pointues, enfin, pas du vrai commerce en ligne. Donc, du coup, il y a peut-être l'objet même de l'entreprise qui pourrait changer, et ça, ils pourraient ne pas être d'accord, et les actionnaires pourraient ne pas être d'accord non plus.
Après, il y a une prime de 20% sur le cours actuel d'eBay.
Oui, tout à fait, et même de 45% si on regarde la moyenne, mais voilà, encore une fois, avec de la dette, avec des actions GameStop, qu'on ne sait pas où elles vont, bon.
Bref. Un peu de cash aussi quand même.
Un petit peu.
Voilà, et c'est aussi peut-être l'occasion de réhabiliter une vieille endormie, on en parlait avec Vincent en introduction, on se disait hors antenne, cette marque, elle est quand même un peu datée, on la connaît tous, peu l'un des premiers leaders. Là, vous avez une autre marque qui est une vieille marque, mais qui a une communauté extrêmement forte. C'est ça qui fait la force des marques d'aujourd'hui.
Et le côté communautaire.
Donc, de réhabiliter une vieille marque avec une communauté très très forte et un playbook industriel qui a quand même du sens, on en parle. Je trouve que c'est pas hors sujet, mais bon, les chances de succès, j'ai pas regardé Polymarket, sont pour l'instant encore un peu limitées.
Les Polymarket.
Pardon.
C'est dit n'importe quoi. Oh, en parlant de belle endormie, un très bel article du Wall Street Journal sur le retour en force de BlackBerry. On parle plus des téléphones, bien évidemment, malheureusement, mais des systèmes de sécurité. Et là, il y a peut-être quelque chose à jouer, effectivement, et peut-être une deuxième vie à trouver pour BlackBerry. Elle est déjà en cours, mais apparemment, ça se précise, puis ça commence à intéresser les investisseurs. Tiens, Gustave, on va juste revenir quand même, on en parlait aussi sur le sans-faute de la high-tech américaine. Ça délivre, ça fait du bénéfice, il y a du capex. Il y a même Google qui est en train de nous dire, mais attendez, l'IA ne va pas concurrencer nos moteurs de recherche sponsorisés. Il n'y a pas de destruction de valeur, c'est deux activités qui se complètent et qui sont un boost de performance l'une de l'autre. On a à peu près les ingrédients idéaux pour la high-tech ricaine, là, finalement. Si on fait là, un petit peu le décompte de tout ce qui a été publié et qui s'est terminé par Apple vendredi.
C'est incroyable. Et en même temps, c'était prévisible. Il y a un mois, on était en plein dans l'œil du cyclone, du conflit géopolitique. On parlait que de ça, c'était dur de parler d'autre chose.
Ouais.
Et vous avez fait remarquer sur le plateau, attention, dans le même temps, les analystes relèvent leurs objectifs de résultats. Donc en fait, pour les entreprises américaines, Q1, Q2, Q3, Q4.
Ah, il y en avait encore sous la
tête. Par ailleurs, ce qu'on voyait, c'est que les positions, notamment des investisseurs retail, étaient plus vendeuses que jamais.
Donc, c'est ça.
Très protégées.
Et c'était, oui, c'était ce qui changeait la donne. Là.
Notre constat, à ce moment-là, c'était de se dire, cas, nous, c'est le constat qu'on avait fait chez Colbert, c'est de se dire, attention, la sensibilité des marchés à la hausse sera peut-être beaucoup plus forte qu'à la baisse, puisque les marchés sont déjà couverts.
C'est ça.
Et ce qu'on voit, effectivement, bah, en fait, c'est que ces analystes, pour le coup, se sont pas trompés, et que les résultats sont là, massivement là. Si on prend, par exemple, Alphabet, donc Google, on parle de plus 60% de CA sur la partie cloud, et ça se traduit par un BPA, donc un bénéfice par action, en hausse de 90% sur le trimestre.
Quand on regarde les chiffres d'affaires,
quand on regarde les chiffres d'affaires, bon, tout est au-dessus des attendus, hein, autour de plus 2, plus 3. Quand on regarde en revanche les bénéfices par action, on est à plus 90% par rapport à l'attendu. Donc, ce qu'on voit dans les marchés là aujourd'hui, ce n'est pas de la spéculation sur le détroit d'Hormuz, va-t-il ouvrir, fermer, ou quel sera le prochain contentieux géopolitique. Ce qu'on voit, c'est des résultats d'entreprises exceptionnels qui dépassent largement les attentes et qui sont effectivement largement portés par la partie en fait, IA de ces business. Là, on se focus souvent sur les Mag 7, les Magnificent 7, les 7 plus grosses valeurs, tant leur place est importante. Mais donc, si on regarde effectivement dans le détail, sur Alphabet toujours, plus 60% du CA sur la partie cloud, et en fait, on est à plus 30% sur Amazon. Donc, on voit que c'est bien la partie cloud elle-même tirée par l'utilisation d'intelligence artificielle qui vient driver ces grosses valeurs à la hausse. Et effectivement, on peut étendre la démonstration sur l'ensemble du marché.
Oui, et puis on est rassuré aussi parce que Apple continue de vendre beaucoup de téléphones. Et voilà, il n'y a pas d'enjeu structurel IA hyperscaler et ça lui permet de signer aussi de bonnes performances. Vincent Gras, vous avez un commentaire sur ces résultats ?
Eh bien, c'est ultra concentré sur ces boîtes IA, en fait. Quand on regarde, ça, on ne peut pas interpréter ça comme les États-Unis vont bien. Si on regarde le S&P 500 équipondéré, donc qui enlève tout ce biais de taille de capitalisation, c'est plus du tout la même histoire.
Donc, on est d'accord. Juste une exception, j'ai quand même regardé les résultats de valeurs très traditionnelles et très cycliques comme Caterpillar, où je me suis dit, mais ils vont se prendre la marée. Enfin, c'est une catastrophe, le contexte en ce moment. Mais pas du tout. Et leurs prévisions sont même meilleures qu'attendues.
Il y a des choses à reconstruire dans le monde quand même. Donc,
oui, deux, trois trucs.
Caterpillar, c'est... On est pas mal utile en ce moment.
Ouais, mais je parlais aussi de John Deere, des valeurs comme ça aussi. On sait que l'agriculture, en ce moment, on a des chiffres absolument épouvantables sur l'agriculture aux États-Unis. Enfin, tout le monde est en train de fermer. Il y a plus d'engrais, il y a plus de semences, il y a plus rien.
Mais c'est ça le plus gros risque avec le détroit au final pour les États-Unis, parce que le pétrole, ils en produisent plus que ce qu'ils en importent.
Ouais.
J'ai vu une estimation qui disait que tant que le baril serait pas à 180 dollars, l'économie américaine ne souffrirait pas du pétrole.
Par contre,
sur les engrais agricoles, c'est une autre histoire complètement.
Oui, les chiffres ont plus que doublé. Enfin, c'est un délire. On reste avec vous pour parler de la BCE au milieu de ça. Alors, on a commenté jeudi un petit peu le discours en direct, tout ce qui s'est passé. Et avec, par exemple, Gilles Mouek d'AXA, on trouvait, mais bon, c'était un petit peu partagé en termes de diagnostic, on trouvait que le ton, du point de vue de la nuance, était un tout petit peu plus accommodant. On avait une Christine Lagarde qui était un petit peu plus attentive, déjà qui mettait vraiment en garde toujours sur les risques inflationnistes liés à l'énergie, sur l'activité des entreprises, etc. Elle ne peut pas faire autrement, de toute manière, tout le monde le voit. Et deuxièmement, avec un ton, on va sans doute relever de 0,25 les taux en juin. Maintenant, pour le reste, elle avait un discours beaucoup moins... entre guillemets, agressif qu'en début d'année, où elle disait, mais on va vers une dérive inflationniste et il va falloir relever les taux. En gros, elle est un petit peu plus mesurée. Est-ce que finalement, c'est pas une bonne nouvelle ou une moins mauvaise nouvelle pour l'Europe ?
Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'oriente vers une situation où on va être en stagflation, qui est une situation très, très compliquée.
Beaucoup.
Quand vous êtes en stagflation et qu'en même temps vous êtes un État endetté, ça devient très très difficile de pouvoir agir. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 0% de croissance en France. Bon, après, on s'attendait qu'à 0,25, donc la déception n'est pas énorme. Le chômage, la tendance est plutôt négative que positive actuellement. Vous avez, pour la France particulièrement, un pays qui est endetté à 115% de son PIB, ce qui donne une marge de manœuvre politique qui est très très réduite. Et étant donné que le budget a été fait sur des prévisions de croissance et qu'on est sur une croissance à zéro, il y a un moment, il va falloir rajuster quelque part.
Ouais.
Soit de la dette, soit plus de recettes fiscales et du coup, vous impactez la consommation des ménages et potentiellement les entreprises si vous augmentez la fiscalité de ce côté-là. Ouais. Soit vous coupez des coûts, des dépenses du coup, qui peuvent être sociales ou autres de l'État. Ouais. C'est un pari qui est assez risqué au début de campagne présidentielle. Donc là, la situation est surtout très attentiste, je pense. Donc on peut se mettre accommodant. La vérité, c'est que l'inflation augmente, la croissance est nulle. C'est très, très compliqué actuellement.
Ouais. Gustave ?
On ne maîtrise pas grand-chose, c'est un peu le problème. Et c'est pour ça, vous verrez que moi, je me concentre, ensemble, vous avez remarqué d'ailleurs beaucoup sur les États-Unis, c'est qu'eux, ils maîtrisent leur politique énergétique ou pas. Eux, ils maîtrisent effectivement un petit peu plus leur masse monétaire, nous moins. Et donc, nous, on s'est coupé finalement de notre principale source énergétique après l'électricité il y a quelques années, je le rappelle, pour se retrouver avec des options qui sont limitées. Et on a choisi de devancer le cycle monétaire, pour une fois. C'est-à-dire qu'on ne devait pas suivre les US, mais on était capable de prendre de l'avance, a priori. Et bien là, on se retrouve un petit peu gêné par cette avance. Parce que je le rappelle, les US, ils ont réduit leur taux à une vitesse plus lente que nous, Européens. Et donc, évidemment qu'on n'a pas les moyens au niveau des individus. Le marché de l'immobilier reste atone au niveau des entreprises d'augmenter en fait ces taux de financement. Donc, c'est pas un luxe, c'est à peine un choix. Tant que la BCE pourra maintenir les taux à ce niveau-là, elle le fera jusqu'à ce qu'elle puisse plus. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faut surtout espérer que les États-Unis arrivent à se remettre sur pied. Et à partir de là, on pourra avoir une trajectoire un petit peu plus visible et sereine.
Bon, on va terminer par les valeurs qui vous plaisent et on va parler. On a un filigrane assez sport et équipement sportif dans cette émission. Je vous le rappelle, à 11h50, on va vous présenter un truc absolument exceptionnel à ce niveau-là, une pièce de l'histoire du sport, une vraie relique sacrée. Mais en attendant, on va parler des équipementiers sportifs. Et dites donc, est-ce qu'Adidas n'est pas en train de régner en maître? Au niveau où est en train de partir au tapis Nike.
Alors, c'est une entreprise que j'aime bien, c'est une entreprise que je surveille. Ils ne sont pas en train de mettre au tapis Nike. Par contre, ils sont en train de mieux exécuter.
En termes de dynamique,
ils ont dit,
il y a quelque chose qui est en train de
se passer.
Faire.
Hein. Exactement. Donc, ils sont en train de réussir dans la stratégie qui consiste à supprimer les intermédiaires de la distribution et avoir une distribution beaucoup plus en direct. Donc, ça passe par le site e-commerce, ça passe par des magasins détenus en propre. Donc, cette stratégie-là, ils sont en train de l'exécuter. Ça fonctionne. Ils ont augmenté aussi la part que représentent les vêtements par rapport aux chaussures.
Oui,
en fait, les chaussures, c'est là où on marge un tout petit peu moins. Les vêtements, vous margez beaucoup. Et ils ont augmenté de 35% là, sur leur dernier exercice la part des... donc de l'habillement, on va dire. Donc, contrôle des marges, distribution directe, augmentation des volumes, c'est une tendance qui est plutôt bonne pour Adidas en ce moment. Oui.
Ouais, et souvenez-vous, hein, il y a quand même eu un truc... c'est pas souvent qu'une marque de sport fabrique, conçoit et vend avec succès un produit iconique. Et là, on a vu un petit événement quand même qui s'appelle la veste chinoise Adidas, que tout le monde voulait, qui s'est... vraiment écoulé à des niveaux un petit peu macroéconomiques hein, pour Adidas et qui change peut-être la donne, quelque chose est peut-être en train de changer là-dessus. Gustave, un petit mot à dire ?
Oui, bah, effectivement, moi je pense à Nike qui avait fait cette erreur pour le coup les concernant de vouloir supprimer ses intermédiaires parce qu'ils avaient un réseau de distribution exceptionnel.
Ouais.
Les grands gagnants, dans un premier temps, on parlait peu d'Adidas, on parlait plutôt des nouvelles marques lifestyle, sportswear, je pense effectivement à Halo, dans le yoga, à Under Armour, running. Under Armour, c'est peut-être plus aux US, mais effectivement, ça pourrait marcher. Mais vraiment, ces marques lifestyle premium, puisque Nike était sur ce positionnement-là. En fait, ils ont laissé les étagères vacantes en partant à ce moment-là et en voulant mettre la pression ou en voulant intégrer plus de prix. Et ces marques se sont précipitées sur ces étagères qui étaient à leur disposition et ont pris d'importantes parts de marché. Aujourd'hui, on voit que ça serait le comble, c'est-à-dire que sur la partie distribution, ils se sont fait concurrencer par les marques que je viens de citer, et sur la partie intégration, ils sont en train de se faire avoir par Adidas. Donc là, ils sont pris un peu en étau entre les deux. Et il y a un vrai enjeu, je pense, pour Nike de renouvellement. Et c'est vrai que les derniers chiffres sont cata.
Ils sont toujours pas bons, hein, parce qu'on attend des pires bons.
En fait, la tendance est mauvaise, et on a dépassé à la baisse les mauvaises tendances sur les derniers résultats que j'avais suivis, en tout cas. Donc, il y a 6 mois, ça mérite un rafraîchissement, mais effectivement, un peu triste pour cette marque pour l'instant.
Vincent Grard de Trade Republic et Gustave Sonnet de Colbert, merci d'avoir commenté avec nous cette actualité encore passionnante du plus petit au plus gros. Tout de suite, les arbitrages.
Tout pour investir. Arbitrage.
Avec Jean-Louis Cussac de Personal Finance. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Un CAC 40 pas très décidé. On est encore en baisse de 0,54%. On descend du côté des 8000 points. Pas trop de volatilité, pas trop de. On a encore un marché peu décidé en ce début de semaine.
Oui, mais il avait tellement progressé jeudi que ce n'est pas un scandale. On revient en fait sur le niveau de jeudi vers 17h. Bon, il y a rien de. Enfin, mercredi dernier, 17h. Et puis on était, oui, jeudi à 15h dans cette zone-là. Donc, il n'y a pas d'excès sur les baisses. En tout cas, sur l'ensemble du groupe A, c'est très calme. On a des marchés européens qui sous-performent évidemment les Américains, mais qui résistent, je trouve, quand même assez bien aux menaces et aux conséquences de la hausse du pétrole. Alors la méfiance, elle est toujours extrêmement importante. C'est pour ça que les marchés ne sont pas dans des situations de complaisance avec un effet domino potentiel, vous voyez. C'est pas possible parce que même là, on est à 17,5 avec la hausse pourtant de jeudi, 17,5 de vol implicite sur le mois de juin, donc c'est pas mal. Là, en ce moment, il y a la période de distribution des dividendes. Aujourd'hui, vous avez 10,5 à peu près. Aujourd'hui, il y a rien en dividende, mais demain, il y a 10,5. Après-demain, il y aura 7,7 à peu près. Et ensuite, jeudi, il y aura 11 points, vous voyez. Donc cette semaine, ça va faire baisser mécaniquement, évidemment, le CAC 40. Bon, les poids lourds du CAC, bon, il y a des petits replis, mais encore une fois, il n'y a pas d'excès nulle part. Mais c'est vrai qu'on a démarré en trombe et on a retracé sur le futur CAC 40 par rapport au niveau de 8 heures de 1,2. C'est beaucoup. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe à ce point-là pour faire retracer? Mais en définitive, encore une fois, quand on regarde les valeurs une par une, il n'y a pas de fort repli. Bon, l'idée ce matin, c'était d'acheter jusqu'à, en attendant un signal technique, 8010. Au-delà du 8010, ça commence à être un petit peu embêtant. On a fait 8010 sur le futur du mois de mai, c'est pas méchant. Donc c'est une zone d'achat, on l'a atteinte, une zone d'achat intraday. Le signal long terme, si vous voulez, il reste techniquement haussier. Bon. Mais évidemment, tout le monde voit bien que on piétine beaucoup, on fait des retracements, on remonte. Ouais. Il y a une hésitation extrêmement importante sur le fond parce que il y a des menaces. Dans le pipeline, il n'y a pas d'espoir de voir quelque chose de positif surgir demain matin. Et le pétrole continue d'inquiéter. Et de toute façon, on va payer certainement les conséquences à certains temps. Donc c'est une phase de marché très particulière où il faut un peu naviguer à vue, faire des stratégies d'options énormément. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller voir. Et puis se dire, voilà, à partir de quand je remets en cause l'idée d'acheter les marchés européens, en tout cas sur le CAC 40, bien on pourrait dire que sous 7870, voilà, on se dit, allez, là, on rentre dans une zone neutre, biais baissier, même un petit peu. Donc voilà, on stoppe tout, on se protège et puis on patiente. Je pense que ça va être une phase de marché, il va faire preuve de beaucoup, beaucoup de patience.
Merci Jean-Louis Cussac, Perceval, Finance Conseil. C'est vrai, des marchés un petit peu indécis entre les États-Unis, l'Europe. On va parler des pays émergents qui manquent un petit peu au tableau en ce moment, mais il est question de s'y intéresser et c'est peut-être le bon moment. On sera dans quelques minutes dans la boîte à outils avec Souleymane Jean Galadima de Sapiens. À tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
Et on ouvre la boîte à outils avec Souleymane Jean Galadima de Sapiens. Bonjour.
Bonjour, Don.
Et donc, on va parler des émergents. Mais oui, parce qu'on parle beaucoup du marché européen, beaucoup du marché américain, évidemment, qui drive un petit peu la tendance. Puis là, c'est vrai que l'actualité entre résultats, décisions de banque centrale, on était plutôt focalisé là-dessus. Mais, les émergents, il ne faut pas les perdre de vue. Et puis, on a surtout, on va dire un paysage qui est en train de changer avec des très grandes puissances. Au milieu de ce paysage un peu disparate, que soit l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, enfin, est-ce qu'il faut encore parler de marché émergent? Après, la nomenclature est assez précise, mais voilà. Et puis des terres de conquête, que soit l'Amérique du Sud, comment se présente le paysage des marchés émergents en ce moment-là, à l'heure où on se parle, souvent,
Alors, on considère que nous, c'est une vraie opportunité. que ce soit sous l'aspect en fait obligataire ou l'aspect action. Et ce paysage, c'est presque un peu condescendant d'ailleurs de parler d'émergents, puisque ce sont de grandes puissances.
C'est ça, bah oui.
aujourd'hui, 40% du PIB mondial est drivé par les pays émergents, 50% de la croissance. Et pour autant, on voit que c'est absent du MSCI World. C'est à peine 12% du MSCI All Country. Et on sent que quand on se projette entre guillemets sur l'avenir, il y a de réelles opportunités. La Chine est le deuxième pays en termes d'intelligence artificielle. L'Inde, c'est 20% de production des médicaments génériques. Le Brésil est en train de dérouler également sur les biotech. Donc, il existe des opportunités. Elles se traduisent aussi d'ailleurs dans les valorisations, puisque si on regarde en effet la valorisation dans les pays émergents, on est plutôt en moyenne sur 12 fois les bénéfices futurs quand on est à 21 fois sur le S&P 500. Donc la valorisation est intéressante, le potentiel sur l'avenir est intéressant et donc on a du mal, nous des fois, côté conseiller multifamily office, à bien faire comprendre aux investisseurs que l'image que l'on avait des pays émergents dans les années 80-90 n'est plus du tout la même aujourd'hui. Il y a une forme d'asymétrie, une divergence, et qu'aujourd'hui, il existe des opportunités. Nous, on le voit sur l'obligataire et sur les actions.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que souvent, on parle des marchés émergents, on regarde les marchés actions, c'est vrai qu'il y en a certains qui progressent. Enfin, c'est assez fabuleux. On parlait de la Corée du Sud avec le réveil de la DRAM, de Samsung, là. Et encore une fois, est-ce qu'il est question de parler de marchés émergents quand on parle de la Corée du Sud? Mais il n'y a pas que les actions, il y a aussi la dette. Et ça, c'est un point intéressant. Je note que, voilà, dans votre étude que vous nous apportez, généralement, les entreprises des pays émergents sont plus fiables en matière de gestion de leurs dettes que les pays développés.
Exactement. En fait, il y a déjà une inefficience structurelle qu'on appelle un tout petit peu le plafond souverain. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, du pays comme l'Équateur, qui est notée triple C, ne peut pas avoir en fait, de note crédit supérieure à celle de son pays. Donc cette même entreprise, en fait, qui a des fondamentaux financiers solides, qui est exposée à l'international, qui est résiliente, en fait, elle emprunte aujourd'hui en Équateur sur un coupon en taux d'intérêt à 10%. Alors qu'en fait, une entreprise équivalente en France, avec les mêmes fondamentaux financiers, emprunterait en fait à 3%. Est-ce qu'il y a trois fois plus de risques ? Non. Et donc, c'est pour ça qu'on considère qu'il y a une opportunité de marché à utiliser cette dette corporate des pays émergents en complément d'une poche obligataire un peu plus traditionnelle pour venir doper la performance. Et comme vous l'avez dit, avec en plus un niveau d'endettement qui est sensiblement moins élevé sur les dettes corporate en fait, des pays émergents versus les dettes corporate des pays effectivement occidentaux.
C'est super curieux, mais personne ne s'est penché sur ce paramètre technique parce que ça fausse complètement le paysage en vrai.
Ça fausse le paysage. Il existe quelques exceptions d'ailleurs en France. On a des entreprises qui sont mieux notées que l'État français, mais malheureusement, mais malheureusement, ça ne s'applique pas effectivement sur les pays émergents. Et derrière, on a souvent aussi l'argument de dire oui, mais les pays émergents ont un marché en fait pas forcément liquide ou plus restreint. C'est pas du tout le cas. En fait, le marché de la dette corporelle des pays émergents, c'est 2500 milliards de dollars. C'est plus que le marché du high yield américain et européen réunis. Donc, il y a de la liquidité. Il y a un effet de levier mesuré et en plus, effectivement, il y a ce potentiel de croissance en fait actuel et à long terme à pouvoir capter. Donc, nous, on considère, pour parler chiffres, que c'est intéressant d'avoir entre 10 et 20% en fait dans sa poche obligataire d'obligataires pays émergents, à condition d'utiliser en effet des gérants capables de sélectionner ces entreprises corporate parce qu'on sera dans des géographies différentes, dans des domaines spécifiques, dans des analyses crédits un peu plus complexes qui nécessitent, en ce qui nous concerne, de la gestion active versus plutôt la gestion passive sur les large caps mondiales. Mais là, effectivement, sur la dette corporée des pays émergents, c'est bien d'avoir des gérants qui ont un track record, et notamment sur la partie défaut, supérieur au benchmark. Et nous, on aime bien utiliser notamment IVO dans l'allocation à nos investisseurs.
Ok, à noter, parce que c'est vrai aussi qu'il y a cet aspect technique dont on vient de parler, et puis il y a aussi toute la technicité de l'organisation des indices. À savoir que il y a un indice MSCI World qui vous permet de jouer le World, mais il n'y a pas tous les pays dedans. Non. Là, il faut jouer le MSCI All Countries, si j'ai bonne
mémoire. Et même le All Country, en fait, ce n'est que 12% d'exposition aux pays émergents. Donc, c'est déjà une première approche. Parce qu'effectivement, on voit des fois passer sur les réseaux, oui, vous faites un MSCI World en ETF 100% et vous êtes exposé. Non, en fait, vous n'êtes pas exposé en fait, à 40% du PIB, 50% de la croissance.
Non.
Donc, le MSCI All Country est une première étape, mais nous, on conseille plutôt de faire à la limite du MSCI World et mettre 20% de MSCI Emerging Market qui, accessoirement, en 2025, surperforme de près de 10,4% le MSCI World en termes de performance. Donc, il y a un vrai potentiel, certes, de volatilité, ouais, mais aussi de surperformance en jouant les émergents tant sur la partie obligataire que sur la partie en fait action. Et je répète, pour donner le chiffre sur la partie obligataire, l'effet de levier pour un corporate émergent, c'est une fois l'EBITDA. On est effectivement après deux ou trois fois l'EBITDA aux États-Unis et en Europe.
Les deux, trois pays, les deux, trois zones émergentes qui vous intéressent le plus ?
Aujourd'hui, on regarde énormément, notamment le Brésil, qui est effectivement un pays particulièrement intéressant. L'Inde, naturellement. La Chine aussi, puisque notamment la tech chinoise, je l'ai dit, est beaucoup moins valorisée effectivement que la tech US. Alors, on peut considérer que le risque géopolitique est ou non intégré dans le cours. Donc, on considère qu'il est intégré dans le cours. Donc, on considère que c'est intéressant de s'exposer sur ces pays. Il s'agira juste d'être vigilant sur l'impact notamment de ces pays émergents, notamment l'Asie du Sud-Est, par rapport à la crise effectivement du détroit d'Ormuz, puisque ce sont des régions malheureusement fortement impactées.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Là, il y a quand même toute une zone en Asie du Sud-Est qui se voit un peu paralysée en matière d'activité économique. Il y a des restrictions à cause du... Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'essence, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui peut peser à l'avenir et sur lequel il faut être vigilant et justement jouer une gestion active vraiment avec des gens qui connaissent et qui savent?
Exactement. Pour jouer les bons territoires, les bonnes entreprises, celles qui potentiellement seront moins exposées à ces restrictions énergétiques, versus effectivement une gestion un peu passive que l'on peut faire plutôt sur des large caps globales américaines ou européennes.
Le timing est bon. Et regardez un petit peu ce que donnent les performances des pays émergents et au besoin peut-être appuyer un petit peu le curseur dessus. Merci beaucoup Souleymane Jean, Galerima de Sapience et une prochaine fois pour refaire le point sur les zones importantes sur lesquelles investir. Tout de suite, on va faire un peu de finance comportementale.
Tout pour investir, le placement à suivre.
Avec Julien Nebenzal d'Itoro. Bonjour Julien.
Bonjour Antoine.
Et merci d'être en plateau avec nous ce matin. Alors, on va faire un peu de finance comportementale parce qu'il y a des sections et des secteurs de marché là en ce moment où il y a un sentiment un petit peu ambivalent. C'est-à-dire les actions, on est sur des plus hauts historiques là, sur les marchés américains. On n'est quand même pas trop loin du côté des marchés européens malgré une croissance en berne, des perspectives d'inflation, le mot stagflation qui revient toute la journée. Malgré tout, on sent que le marché tient par différents aspects techniques déjà, et puis fondamentaux avec les résultats d'entreprise, etc. Et on a pu le voir lors de la semaine dernière, il y a aussi l'attitude peut-être un petit peu modérée des banques centrales qui aident. Cela dit, malgré tout, il y a un secteur où il y a beaucoup d'inquiétude, c'est le secteur de l'obligataire, avec des taux qui restent très tendus et qui sont sur une pente. Il y avait une époque où on disait, mais l'or, on en achète parce que ça n'arrête pas de grimper. Et là, en ce moment, les taux, on a l'impression que ça n'arrête pas de grimper. Quoi qu'il se passe, les taux souverains, les 10 ans, on les regarde tous les jours. Et cette atmosphère de tension, est-ce que vous trouvez qu'elle commence à, on va dire, changer l'humeur des investisseurs, peut-être, en ce moment, Julien ?
Alors, juste pour rappeler peut-être aux auditeurs, quand un État ou une entreprise émet, enfin, souhaite avoir de l'argent et met une dette, il nous donne un titre sur cette dette qui n'est donc pas un titre de propriété de capital, ça c'est les marchés d'actions. C'est un titre de dette et quand la dette elle a moins d'un an, on parle de marché monétaire, c'est-à-dire qu'en gros il n'y a pas beaucoup de risques sur le capital. En revanche, dès qu'on est sur des durées, on parle de duration techniquement dans notre jargon, supérieure, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans et parfois 50 ans. À ce moment-là, on parle de marché obligataire. La particularité du marché obligataire aussi importante pour tout le monde de se souvenir que quand les taux baissent, la valeur de l'obligation monte et quand les taux montent, la valeur de l'obligation baisse. Donc en ce moment, on constate que les taux ont plutôt monté et donc le marché obligataire, lui, a plutôt baissé. Il est sur des niveaux bas. Et on se préoccupe légitimement de la situation de ces taux qui ne rebaissent pas.
Bien
c'est-à-dire
sûr,
de marché obligataire, la valeur de l'obligation reste en bas. Alors, avant de faire juste un peu de comportemental, juste rappeler qu'il y a toujours un... Parce que la partie comportementale, on est partant ou pas, je ne suis pas nécessairement prosélyte, mais il y a des choses qui sont tout à fait factuelles. Les marchés financiers réagissent beaucoup en relatif. Quand l'économie a des bonnes perspectives, on anticipe que les profits des entreprises vont s'améliorer, donc on part sur les marchés actions, et de facto, on retire un peu de ce qu'on a qui n'est pas marché actions, c'est en général monétaire et obligataire, donc monétaire. Donc obligataire, pardon. Donc là, en ce moment, le fait d'avoir des gens qui vendent des obligations, c'est-à-dire des taux qui montent, peut être interprété comme un souhait de se positionner sur le marché d'actions. Et d'ailleurs, le marché d'actions est plutôt haut, comme vous l'avez rappelé. Donc c'est une première explication possible. La deuxième chose cette fois-ci plus éco-macro-classique, si on a une perspective d'inflation qui croît, on se dit que la valeur de notre argent aujourd'hui va se déprécier, et donc on exige un taux d'intérêt plus élevé. Ouais. Donc on attend que les taux montent pour pouvoir acheter des obligations. Et si aujourd'hui les investisseurs anticipent de l'inflation, eh bien ils ne se précipitent pas sur les marchés obligataires. À nouveau, une raison pour laquelle le marché obligataire pourrait baisser. Voilà les deux grandes lignes générales qu'on peut dire. Après, sur, et je crois que dans votre question, il y avait déjà quasiment la réponse, l'ambivalence. L'ambivalence.
Ouais, ouais, ouais.
C'est-à-dire qu'on est depuis deux mois, là je parle de la période très courte, on est depuis deux mois dans un range de 2-3% sur la valeur des obligations américaines et européennes. Mmh. Et pourquoi ? Parce qu'à un moment, on se dit, ben, les choses vont mal. Alors, si les choses vont mal, la croissance sera mauvaise, donc on va acheter des obligations. Mmh. Et puis, en fait, à d'autres moments, on se dit, les choses vont un petit peu mieux que prévu, et c'est moins grave, et donc, voilà. Donc, la difficulté de saisir l'ensemble du dispositif économique qui résulte de la situation actuelle, c'est-à-dire principalement de la situation de guerre au Moyen-Orient, mais aussi de ce qui se passe en Europe. La difficulté de résoudre ça, ça se retrouve dans le marché obligataire. Et c'est d'ailleurs une conclusion, une forme de conclusion. Le marché obligataire, c'est toujours celui qui donne la vision la plus sérieuse, la plus compacte en termes d'information de ce qui se passe. Les marchés d'actions ont une tendance, qui est différente de celle des marchés d'obligations, ont une tendance parfois à partir dans des mécaniques soit de bulles, soit d'excès de pessimisme, alors que les marchés obligataires ont tendance à afficher quelque chose qui, a posteriori, nous paraît rationnel. Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui. On a une volatilité dans une fourchette depuis 2-3 mois, mais avec, on voit bien, des forces qui s'opposent. Je crois qu'on peut regarder, cette fois-ci peut-être en comportemental, on peut regarder la situation longue. Parce que là, on dit, ah, les taux montent et puis ils ne baissent pas. Oui, mais oui, si on regarde depuis 5 ans déjà, la valeur des obligations a perdu 30%. C'est important pour les gens de se souvenir que si quelqu'un a acheté il y a 5 ans une obligation qui valait 100, bon, bah, dans 5 ans, c'est-à-dire une obligation de 10 ans, dans 5 ans, on sera remboursé de 100. C'est bon. Mais aujourd'hui, ça vaut 70, 80. Ça ne vaut pas 100. Si on veut revendre son obligation, ça ne vaut pas 100. En plus, il y a 5 ans, le taux était quasiment à zéro, entre 0 et 1%, selon qu'on prenait l'Europe ou des États-Unis. Et ça veut dire que sur toute cette période de 10 ans, on n'a pas beaucoup de rémunération. Et comme l'inflation est revenue, et oui, forcément, on a un problème. Donc le marché obligataire peut poser des questions en termes d'allocation. Il y a des moments où il faut peut-être être à l'écart de ce marché, d'autres moments où on peut y revenir. Mais on parle donc beaucoup de ce qui se passe en ce moment, mais on n'a pas, à mon sens, véritablement tenu compte dans à la fois l'allocation des portefeuilles, mais aussi dans les perspectives de rendement, on n'a pas tenu compte du fait que les taux ont beaucoup monté. Les obligations, comme je disais, ont baissé de 30% en 5 ans. À titre d'exemple, aux États-Unis, on est passé d'environ 1% à environ 4 ou 4,5%, selon le moment où on regarde. Ce n'est pas du tout la même chose, ni pour le rendement, ni pour la situation de l'économie. Donc si vous me posez la question, est-ce qu'on a pris en compte tout ça? Je pense qu'aujourd'hui, il y a le mécanisme de déversement des capitaux, tantôt sur les obligations, tantôt sur les actions, qui bat son plein. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment depuis deux mois. Mais ce qui, en gros, aussi structure beaucoup ce qui se passe sur les marchés financiers depuis cinq ans. Il y a eu cette normalisation des taux, hausse des taux de la banque centrale, des banques centrales, mais principalement évidemment la Fed. Ensuite, retour de l'inflation. Le début, ça a été le Covid, mais ensuite, ça a été évidemment la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, on rajoute une petite couche à ce sujet avec la guerre au Moyen-Orient.
Ouais.
Et donc, on se retrouve sous cette force inflationniste qui explique, je crois, ce qui se passe.
Oui, avec, dans le même temps, un sentiment très négatif sur les perspectives de croissance un petit peu partout. Alors, peut-être exception faite des États-Unis qui sont en train de jouer leur propre partition, mais partout on sent que les pressions inflationnistes, malgré les mises en garde des différentes institutions monétaires un petit peu partout, même des grandes agences internationales de l'énergie, etc., on a l'impression d'un marché qui a beaucoup de mal à se faire à l'idée d'un mur qui lui arrive dessus. Et est-ce que ça aussi, c'est un biais comportemental qui peut être dangereux à terme?
Le biais, on peut l'avoir nous deux, en parlant de ça. On peut avoir un biais de représentativité ou biais de représentation. Parce qu'on se dit, les marchés, les indices actions sont au plus haut, donc forcément, ils ne tiennent pas compte du mur qui est en train d'arriver. Mais si on regarde, les marchés actions sont aussi tenus par la composante technologique qui, elle, n'est pas spécialement sensible à l'inflation et qui, dans la situation géopolitique, tirera profit de beaucoup de choses. Le capitalisme a une version, un aspect plastique. Il s'adapte. On a vu ça, ça fait 200 ans qu'on le voit extrêmement clairement. Quand il y a des conflits, des guerres, le capitalisme s'adapte. Il est en train aujourd'hui de s'adapter. Donc on a des compartiments comme ça qui n'ont a lieu d'être touché. On en a d'autres, comme le secteur pétrolier, qui ont toute raison de percevoir des profits futurs très significatifs. Ouais. Eux aussi, et ils ne sont pas neutres dans les indices, eux aussi ont une bonne valeur. Donc en fait, en se disant les marchés ne tiennent pas compte, en fait les marchés tiennent compte. C'est-à-dire certaines choses ont été dépréciées, ouais, alors que d'autres ont été appréciées pour justement la prise en compte de ça. Ce qu'on peut éventuellement dire, ça c'est une question que j'ai déjà posée il y a un an, enfin deux ou trois ans, c'est que le price-earning ratio, c'est-à-dire la valeur moyenne des actions rapportées à leurs bénéfices, cet indicateur n'a pas franchement baissé depuis 3-4 ans, alors que les taux ont monté beaucoup, les taux obligataires ont monté.
Mais c'est ça.
Et normalement, historiquement, quand on a des taux obligataires qui montent, le price-earning a des difficultés, lui, à monter. C'est-à-dire la cherté relative. Je rentre dans quelque chose qui est un petit peu technique, mais...
Non, mais on est là
pour voir ici que les actions sont plutôt chères relativement à ce qui s'est passé sur le marché obligataire depuis 5 ans.
Donc, effectivement, c'est toujours très intéressant de regarder ce biais-là, parce qu'on parle du wording de marché toute la journée, mais au milieu de tout ça, il y a quand même quelques dynamiques, quelques thématiques particulièrement intéressantes à suivre. Merci beaucoup, Julien Nebenzahl, Ditoro. Est-ce que vous êtes un amateur de boxe ? Je vous prends un peu à brûle pour point.
J'ai vu dans le couloir
quelque chose d'incroyable.
Ça m'a l'air très intéressant.
On va parler de cette chose incroyable dans quelques instants. On va s'intéresser au marché de la mémorabilia. De ces articles de sport qui ont été utilisés dans des matchs, dans des compétitions, par des athlètes connus, avec nos experts d'Interenchères, là, dans quelques secondes. Et il y a un objet absolument mythique qu'on va vous présenter. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Alors, on est en train d'essayer d'organiser un petit peu ce plateau, parce que on a quelque chose d'un petit peu exceptionnel à vous présenter aujourd'hui. Alors, on est en 1981. Frédéric Lapeyre d'Interenchères, bonjour.
Bonjour Antoine.
On est en 1981. On a une star mythique de la boxe. Il est la boxe. Il est le plus grand boxeur de tous les temps. Il s'appelle Muhammad Ali. Il est américain. Il a tout gagné. Et il s'entraîne pour son dernier match. Ça se passe aux Bahamas. Ça s'appelle Drumarine Bahamas, parce qu'à chaque fois, ils font un gros titre pour ces matchs un petit peu mythiques. Il va se battre contre Trevor Berbick, je crois.
Berbick,
voilà. Fait. Trevor Berbick, qui est très très bon à l'époque et qui, lui, est en pleine ascension. Il arrive pour ce combat. Il est gras. Il est lent. Il s'est complètement laissé aller. Il le sait peut-être pas encore, mais c'est le dernier match de sa carrière. Ça va être un four, il va pas y être du tout, et il va perdre au point. Et pour ce match, il s'est quand même entraîné, parce que c'est un pro, et parce que c'est Muhammad Ali, et il s'est entraîné avec des gants. Et un de ces gants, nous l'avons là, ici, exactement, juste derrière vous. Alors, si vous pouvez vous lever et nous présenter l'objet sans
très
aucun
bien
problème.
Parfait.
Ah, mais je crois qu'on le voit d'ailleurs.
On le voit.
Alors, il est
effectivement,
magnifique.
Donc, cet objet-là, on voit un simple gant, mais évidemment, il y a un petit zoom qui a été...
Revenez vers le micro, c'est pas grave, on le voit, okay, hein, y a pas de souci.
Il y a un petit zoom qui a été fait dessus, on voit bien qu'il y a une dédicace, oui, et elle est signée Muhammad Ali. Et c'est pour son conseiller, Lloyd Wells, qu'il considérait comme un frère, et qu'il a accompagné pendant plus de 20 ans. Donc, il le remerciait de l'avoir accompagné, et notamment lors de son quatrième comeback, puisque c'était son quatrième comeback en 81.
C'était ses quatrièmes adieux à la scène. Il n'en pouvait plus, il ne pouvait pas...
Absolument, absolument. Ouais. Et donc, c'était quelque chose de très fort, la relation qui les unissait. Donc, ce lot-là, la dernière fois, j'ai parlé de bijoux, d'or et de bijoux, parce
moi,
que c'était un investissement...
Moi, je parle presque d'une relique au sens religieux du terme.
Ah, mais là c'est de la passion, ça touche à quelque chose d'extrêmement profond, qui fait vibrer. Alors, c'est proposé à la vente par Quai des Enchères, maison de vente à Mâcon, et on va voir pourquoi Mâcon, d'ailleurs, dans une vente qui est sur Interenchères jusqu'au 31 mai, et qui propose des artefacts de légende. Donc, il y a évidemment ce gant de Muhammad Ali, il y a aussi aussi un casque d'Ayrton Senna, il y a un gant de toile de
le
Michael Jackson.
National.
Absolument. Oh, il y a également un Tokiwoki de Retour vers le futur 2.
C'est fort.
Voilà, il y a beaucoup de jeux comme ça.
Il n'y aurait pas un gant de Michael Jackson aussi?
Non, mais alors il y a une vente à venir prochainement. Alors si, il y a un gant de toile de Michael Jackson.
Ouais.
Et en plus, il y aura une vente dédiée à Michael Jackson début juin. Par la maison de vente Agut, qui vient ici régulièrement, tout à fait,
bien, oui.
Et qui va donc faire une vente sur la légende de Michael Jackson, 50 objets ayant appartenu à la légende, estimation entre 500 000 et 1 million d'euros, dont un gant, et décidément, les gants ont la cote,
oui.
Entre 100 et 150 000 euros d'estimation. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, je pense aussi ouais. de dire par rapport à ces reliques, c'est ouais. exactement le bon terme que vous avez utilisé, c'est qu'il y a, alors, l'avantage de s'adresser à un commissaire-priseur de vente aux enchères, c'est que aujourd'hui, toutes ces reliques-là, on en trouve plein sur Internet. Avec le développement du commerce en ligne, ouais. c'est un peu le Far West. C'est-à-dire,
vraiment faire attention.
Il faut faire attention.
Faut avoir, ouais.
On peut avoir des reliques qui sont douteuses. On peut avoir des dédicaces qui sont pas vérifiées.
Fausse.
On peut avoir des provenances fantaisistes et on peut se faire avoir. Donc, les commissaires-priseurs qui apportent l'authenticité, qui regardent toute la chaîne de traçabilité, vous donnent cette garantie-là. Et en l'occurrence, dans les critères d'estimation, le critère numéro un, c'est la provenance.
Oui, tout à fait. Oui.
Là, dans ce cas présent, ce gant, il appartient à Théo Griezmann. Théo Griezmann, son frère Antoine est le fameux footballeur.
D'accord, oui.
Théo Griezmann est collectionneur, donc il a une collection de mémorabilia, donc la famille est de Mâcon,
ouais,
d'où
ouais.
Qui est des enchères qui proposent cette vente.
Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Oui,
voilà,
je comprends,
c'est pour ça.
Il est de la région, oui.
Exactement. Il a 412 000 fans. Il vend sa collection de mémorabilia pour pouvoir se concentrer sur une collection de cartes. À collectionner. Voilà, donc le critère numéro un, c'est la provenance pour la traçabilité. Voilà. Le deuxième, c'est le moment. Vous l'avez dit en préambule, là, c'est le dernier combat de
ouais.
Mohamed Ali.
Ouais.
Donc, ça décuple considérablement la valeur. Le troisième...
Il y a peut-être un aspect technique aussi qui est tout bête, c'est des gants Reyes. Là, on parle de marque. Mohamed Ali, ça a toujours été les gants Everlast, même pour l'entraînement. Et là, ça change aussi. Donc, ça rend le truc... Ben, finalement encore plus mythique et inhabituel.
Tout à fait. Alors, juste avant, il y avait des intervenants qui parlaient des bons résultats d'Adidas, ce qui a été dit, donc je le précise. Mohamed Ali, je fais le lien, était l'un des premiers sportifs
à être sponsorisé
et la marque aux trois bandes ouais. était l'un de ses premiers sponsors. Donc c'est un peu celui qui a, en termes de marketing sportif, a initié le mouvement. Voilà.
Ouais, totalement.
Ce qui est important aussi, c'est l'aspect émotionnel. Pour tous les passionnés,
gardez
avoir une dédicace.
Enfin, c'est fou.
Vous sautez partout depuis tout à l'heure.
C'est ça.
Je me suis fait arrêter dans les couloirs. Waouh, c'est stylé. Voilà. Donc, c'est effectivement, tellement. Ça attire le regard. Et puis, il y a vraiment un côté émotionnel qui est extrêmement important. Et puis,
oui.
il y a aussi l'état, la mise en valeur.
Oui.
Là où vous avez un caisson,
un
si vous dézoomez, avec qui est encadré, sous verre, avec des photos d'époque.
Mm.
Donc c'est bien mis
avec
en
la
valeur.
Fiche du match.
Exactement. Ceci dit, pour les mémorabilia,
ouais.
Il y a quand même une spécificité, c'est-à-dire que les traces d'usure vont apporter de la valeur.
Bien sûr.
Donc par exemple, un maillot jaune de Jacques Anquetil lors du Tour 1963
qu'on a vu passer.
Troué.
Oui.
A atteint sa valeur parce qu'il a été usagé.
Pour en revenir à Mohamed Ali,
oui.
je me souviens qu'il y a 2 ans, il y a une vente aux enchères où une paire de ses gants, alors qui avait servi pour un autre match mythique, qui était dans un état absolument pourrave, hein, ils avaient fait tout le match, ça s'est vendu pour 500 000 dollars.
C'est impressionnant.
C'est une somme absolument colossale.
Le marché américain représente quasiment 40%.
Mmh.
Là-bas, même dans les malls, vous voyez des boutiques qui sont spécialisées dans
ouais.
les reliques de sportifs.
Oui, bien sûr.
Voilà. Alors, si on revient dans le marché français, on a aussi vu aux enchères...
Il y a aussi quelque chose là
oui.
dont je voulais parler, parce que c'est Venezia qui prépare l'émission et qui est très sensible.
Oui.
Les répétos de Serge Gainsbourg.
Tout à fait.
Il portait des répétos.
Et donc, ce qui a aussi joué dans la valeur, ils sont vendus un peu plus de 7000 euros aux enchères,
ouais.
ce qui a apporté de la valeur, c'est les traces d'usure sur la semelle de la chaussure droite, puisque c'est celle qui tape sur la pédale du piano.
Mais évidemment.
Qui appuie sur la pédale du piano.
Mais évidemment, et
ça donne de la
répéto,
valeur.
Bien sûr.
Voilà.
Et puis, j'ai vu passer des coussins de chien.
Oui, Stéphane Bern.
Ah, c'est incroyable.
incroyable.
Qui sont vendus un peu plus de 600 euros. Donc on trouve évidemment de tout. Il y a la robe à strass de Michel Serrault dans La Cage aux Folles,
ah bah,
aussi
mythique.
Au théâtre.
Mythique.
Un peu plus de 3 000 euros. Après, il y a les maillots de Kylian Mbappé, 160 000 euros. Donc là, ça dépasse presque tout
un temps. C'est vrai que c'est un petit peu plus classique, le maillot dédicacé. Parce que le marché de la mémorabilia aux États-Unis, c'est quelque chose de monstrueux, parce que la moindre balle dédicacée par un joueur connu de baseball peut atteindre des sommes absolument faramineuses, et bien au-delà de Babe Ruth, qui a été le plus grand joueur de baseball américain. Mais c'est une culture qu'on n'a peut-être pas encore, alors, sauf peut-être pour les maillots de foot en France. Et c'est quelque chose qui tend à se développer, ça, quand même. Parce qu'il y a de l'expérience derrière.
Absolument. Ça n'est pas qu'un marché de nostalgique. Mmh. C'est un marché d'avenir.
Tout à fait, ouais.
Aujourd'hui, il y a à peu près, on a fait une étude, hein, 20% de la population adulte en France qui a acquis ou envisage d'acquérir un lot ayant appartenu à une star. Chez les jeunes, 18-24 ans, c'est 50%. Et si on regarde à l'échelle mondiale, en 2024, le marché pesait 26 milliards d'euros. Mmh. Ça sera 44 milliards en 2032. Donc, 6 à 7% d'augmentation par an. C'est vraiment extraordinaire. C'est en plein boom. Mmh. Ça touche à la fois le cœur et le porte-monnaie, bien évidemment, puisqu'à peu près 20% investissent pour revendre plus cher.
Revenez nous en parler, Frédéric Lapeyre. Il est question de... Ça me met des frissons. Peut-être qu'on peut le regarder une dernière fois. Donc, ce gant de Mohamed Ali, son gant d'entraînement pour son tout dernier combat professionnel en 81, qui sera donc mis en vente...
Il est en vente sur interenchères.com jusqu'au 31 mai. Quai des enchères.
Donc, on va regarder ça et on verra le tarif qu'il atteint à la fin, parce que ça peut potentiellement être quand même assez exceptionnel. Frédéric Lapeyre, merci infiniment. Interenchères. On se retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. D'ici là, je vous laisse avec Marie Cœur de Roy, les experts de l'IMO. C'est tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.